Dans l'épisode précédent, nous avons précisé ce que peuvent être les violences sexistes et sexuelles faites aux enfants. Les définir permet de les identifier et d'en mesurer l'ampleur, mais cela n'est pas suffisant.
Maintenant qu'on y voit plus clair, une question s'impose. Est-ce qu'on protège vraiment les enfants aujourd'hui? Parce que oui, en France, des lois et des dispositifs existent. Mais est-ce suffisant? On voit bien que ça ne l'est pas. Alors la question devient collective. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Que l'on soit jeune, parent, animateur ou animatrice, enseignant, enseignante, ou simplement citoyenne ou citoyen, on a toutes et tous un rôle à jouer. Et souvent, ça commence par des choses très simples. Écouter, croire, repérer et protéger.
Sur les violences sexuelles, nous avons dit à la Ciivise, 160 000 enfants chaque année dans notre pays sont victimes de violences sexuelles.
Ces propos sont ceux d'Edouard Durand, juge spécialiste de la protection de l'enfance et de la lutte contre les violences faites aux enfants, président de la Ciivise de 2021 à 2023.
160 000 enfants.
Par classe, il y a un chiffre qui est très éloquent.
Alors on dit 3 enfants par classe. Ouais, mais lesquels?
Oui, on sait toujours.
Dans une classe, lesquels? Ils ont un visage, ils ont un prénom. Lesquels? Et il faut les trouver. Et pour ça, il faut poser la question des violences à tous les enfants. Nous avions dit, par exemple, au moins un rendez-vous annuel, avec un médecin, par exemple, de dépistage des violences. Au moins que l'État garantisse qu'au moins une fois par an, chaque enfant dans notre pays ait un adulte protecteur qui lui et toi. Tu sais, parfois, il y a des enfants qui me disent qu'on leur fait des choses qu'ils n'aiment pas. Est-ce que ça t'est arrivé? Tu peux me le dire. Quelque chose comme ça. Première chose, le repérage.
Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place ce type de rendez-vous? C'est parce qu'on a du mal à regarder aussi les violences intrafamiliales dans notre pays? Vous pensez que c'est une des causes?
Mais bien sûr, vous savez, c'est le nombre d'enfants victimes de violences, de toute violence, et le nombre de personnes condamnées pour ces violences, il y a un écart abyssal. 3% des pédocriminels sont déclarés coupables. Ça veut dire qu'il y a 97% qui ne sont pas déclarés coupables. Pour arriver à progresser, il faut prendre au sérieux la parole des enfants qui révèlent des violences, et prendre au sérieux la parole des adultes protecteurs qui soutiennent la parole des enfants victimes de violences. Si vous voulez, il y a une injonction paradoxale dans la société qui est « faites-nous confiance, dites-le nous ». Et à l'instant où les enfants le disent, ou leur mère le disent, on dit « mais pourquoi on vous croirait ?»
Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors, à partir du moment où on le sait maintenant? Si le message nous est remonté par l'enfant lui-même ou par un adulte protecteur, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose à faire pour
agir. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure, appelez le 119. Aller au service social, au commissariat, signaler. La protection, c'est une chaîne.
Pour toi, qu'est-ce que globalement est fait dans la société actuellement pour lutter contre ces violences faites aux enfants?
Romane, Jen, animatrice, centre de loisirs.
À l'école, j'ai pas vraiment appris ça, mais par contre, je pense que dans les solutions, on pourrait justement les sensibiliser en leur faisant voir ces vidéos qui peuvent les aider à s'en rendre compte si ça leur arrive, et leur poser des questions surtout, leur demander régulièrement si ça leur est déjà arrivé.
Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que on n'en parle pas plus aux enfants?
Parce que c'est un sujet qui est très compliqué à aborder avec des enfants.
Ok. En quoi ça te paraît compliqué?
Parce que c'est complexe comme sujet, la sexualité, parce qu'on ne sait pas si l'enfant en a déjà entendu parler, on ne sait pas si les parents sont OK pour qu'on en parle. C'est un sujet qui est, dans notre société actuelle, un peu tabou, entre guillemets, on va dire, surtout à des enfants. Il y a le côté aussi du cadre familial, qui des fois, certains, c'est vraiment un sujet vraiment tabou, même au sein de la famille, d'aborder la sexualité.
Georges, directeur de service éducation.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de sensibilisation en direction des acteurs intervenant auprès des enfants pour bien pouvoir repositionner les actes pédagogiques, éducatifs et la posture en fait des adultes. Et ce qu'on pourrait faire, Pour moi, notamment dans le milieu de l'animation, ce serait une vraie reconnaissance en fait du métier d'animateur, avec une vraie formation qualifiante où l'ensemble des éléments de posture, et y compris sur ces questions-là sexistes et sexuelles, pourraient être abordés.
Nelly, présidente des Francas de l'Isère.
Ça y est, on en parle. Maintenant, il y a tout le côté justice, il y a tout le côté comportement, politique. Il faut en parler, mais on n'en parle peut-être pas assez. Toutes les strates, hein, parents, enfants, éducateurs, frères, sœurs, enfin, tout le monde doit être au courant sur ces faits-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? C'est toute la prévention, hein, c'est tout. C'est compliqué.
Ronan, animateur jeunesse.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut continuer à en parler, il faut continuer à écouter les enfants, à les prendre au sérieux. Déjà pour commencer, il faut que les adultes soient capables d'entendre les paroles et de les recueillir et de les écouter correctement.
Cécile, salariée d'une association d'éducation populaire.
Toujours plus en parler, toujours plus montrer des exemples par des documentaires, par des livres, des schémas.
Rémi, étudiant en animation socioculturelle.
Il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans les différents espaces pour les enfants. Par exemple, la sensibilisation sur les numéros d'urgence, sur le fait qu'il faut en parler, les personnes à qui est-ce qu'on peut en parler aussi. On en parle peut-être un peu moins dans les espaces pour les adultes. Je pense que de manière générale, pour pouvoir parler de ce sujet, il faudrait rendre le sujet moins tabou. Que tout le monde puisse en parler, parce que ce qui rend le sujet difficile aujourd'hui, c'est que on n'ose pas forcément en parler. Et que pour moi, une des solutions, ce serait déconstruire ça et le rendre entre guillemets plus accessible pour tout le monde. Parce que si personne n'en parle, c'est comme ça qu'on peut faire face à des situations qui deviennent à risque, voire dangereuses.
Ronan.
D'un point de vue un peu national et étatique, c'est un peu difficile à dire de savoir ce qui est fait. Il y a peut-être une semi-prise de conscience du grand public. Maintenant, on a du mal à voir vraiment ce qui est mis en place. On sait qu'il y a des cours d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle qui sont mis en place. Des petits coins où on peut recueillir notamment la parole des enfants. Les formations aussi qu'on peut faire, que ce soit en interne ou via d'autres structures ou via d'autres formes. Est-ce suffisant? Sûrement pas. Il faut aussi concrètement une vraie politique d'État où nos institutions judiciaires et policières soient vraiment au taquet là-dessus, qu'on forme mieux les gens, qu'on donne plus de moyens. Enfin, il faut de l'argent, quoi. C'est comme tout, c'est le nerf de la guerre. Quand on mettra les moyens et la formation nécessaires, déjà on pourra quand même un peu évoluer là-dessus.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis. Tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait des yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé.
Quand tu travailles auprès d'enfants, qu'est-ce que tu fais ou que tu aimerais faire ou que tu as déjà vu être mis en place dans des structures collectives justement pour lutter contre ces violences faites aux enfants?
Des formations ou des jeux qui peuvent leur permettre de déceler justement ces problèmes ou ces choses qui peuvent leur arriver.
Moi qui suis avec des ados, c'est surtout faire attention aussi aux propos que les ados ont entre eux sur justement ce qu'on appelle des liens sexistes, hein, sur comment on traite les autres filles, comment on traite les autres garçons, enfin voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment de créer aussi une sorte d'espace où si les enfants ou les jeunes ont envie de parler, d'écrire, de dessiner, enfin d'une manière ou d'une autre, ont besoin de s'exprimer, avoir cet espace-là vraiment encadré pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer de la façon dont ils ou elles veulent.
Alors, en étant prof de gym avec des petits, dans un cadre associatif, j'avais mis en place pendant un an, mais même encore aujourd'hui, je crois qu'il y est encore, j'avais mis un tableau en place pour anonymement, en fait, demander, j'avais mis « je vais bien, je vais pas bien, je me sens bien, je me sens mal », et j'avais mis des gommettes à disposition, et en fait, les enfants, ils pouvaient ou comme ils voulaient en fait aller là-bas. Et suite à ça, on va dire chaque fin de semaine, si je voyais qu'il y avait des gommettes dans « je ne vais pas bien, je me sens pas bien, il y a des problèmes à la maison » ou ce genre de choses, je demandais si une personne voulait m'en parler et avait besoin d'en parler. C'est arrivé qu'il y ait des petites qui viennent me parler et tout ça. Et suite à ça, j'en parle avec ceux qui sont plus aptes à agir que moi, c'est-à-dire les adultes qui travaillent avec moi. Et qu'est-ce que j'aimerais mettre en place ? Faire des journées avec l'optique de la sensibilisation de ça, de mon corps, je m'appartiens, je suis une personne à part entière, ce genre de choses.
Frédéric Grassin, conseiller pédagogique à l'Office central pour la coopération à l'école.
Dans le milieu scolaire, il y a de plus en plus de signalements, en tout cas d'attention portée à ça. C'est vrai qu'il y a une difficulté quand on est enseignant entre la juste position de recueil de la parole de l'enfant et de ce qu'il peut nous dire parce qu'on a un climat de confiance et puis de fait de n'être pas un professionnel du recueil des sept paroles et de ne pas mener une enquête parce que ce n'est pas notre rôle. Donc il y a forcément un travail à faire de savoir s'adresser aussi aux personnes qui vont pouvoir prendre le relais. Moi, ce que je vois un peu quand je vais dans les classes, hein, en intervention, j'anime des ateliers en discussion à visée philosophique, autour de la coopération, en expression, en poésie. Ça m'est arrivé dans des classes, quand j'interroge les enfants, je pense à une classe en particulier où systématiquement c'est 4-5 garçons qui lèvent la main. Et en observant, en fait, je vois qu'il y a un groupe de 4-5 filles qui sont éteintes, c'est des CM2. Donc ça veut dire qu'en fait, elles ont construit petit à petit, sans doute au cours de leur scolarité, le fait que il valait mieux être dans une position un peu attentiste parce que il y avait d'autres enfants qui prenaient la place. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est une forme de violence sexiste, alors qui est liée aux gens, hein, c'est ce que je remarque, il y a souvent, en fait, cette attitude-là, qui est peut-être malgré eux, encouragée par les enseignants. Donc, dans cette classe, par exemple, j'ai, à la deuxième séance où je suis arrivé, j'ai dit que systématiquement, ceux qui levaient le doigt et qui avaient l'habitude de lever le doigt en premier, ne seraient pas interrogés et ils pouvaient écrire sur leur cahier, leur réponse, et qu'on allait laisser la place à d'autres, et petit à petit, y en a d'autres qui ont osé intervenir. Voilà, c'est une petite chose qu'on peut mettre en place quand on a l'attention, en fait, à ces choses-là.
Anna, membre du collectif Enfantiste 38.
La première chose, c'est écouter et croire les enfants. Trop souvent, leur parole est remise en doute ou minimisée. Il faut aussi développer une véritable éducation au consentement, au respect du corps et aux droits des enfants, dès le plus jeune âge, avec des mots adaptés. On pense également qu'il faut former davantage les adultes qui travaillent avec des enfants, animatrices, enseignants, éducatrices, professionnels de santé, etc., pour mieux repérer les violences et savoir comment réagir. Il manque aussi des moyens humains et financiers pour la justice et la protection de l'enfance. Aujourd'hui, beaucoup de victimes se retrouvent seules face à des procédures longues et difficiles. Enfin, et surtout, il faut changer le regard de la société sur les enfants. Au collectif Enfantiste 38, nous défendrons l'idée que les enfants sont des personnes à part entière, avec des droits, une parole et une dignité qui doivent être respectés.
Thibaut Blanchard, délégué défenseur des droits de l'Isère.
Tu disais qu'on en entendait beaucoup parler de ces VSS sur les enfants. Est-ce que c'est qu'il y en a plus, tu penses, qu'avant ?
C'était quelque chose qui était de l'ordre du tabou, certainement, et il y avait une forme d'omerta. Personne ne voulait reconnaître que dans son entourage, il pouvait exister des personnes à l'origine de ces violences. Et il a fallu que les langues se délient et que certaines personnes prennent la parole publiquement sur ces sujets-là pour qu'on se rende compte que c'est un système, c'est une violence qui est de l'ordre du systémique et qui est vraiment ancrée au sein de la société, et il faut la combattre partout où elle se trouve et reconnaître que c'est quelque chose qui a une ampleur très importante et qui a des violences qui sont perpétrées maintenant depuis un certain temps, et il est temps de traiter cela d'un angle en tout cas juridique, je pense, via notamment le défenseur des droits.
Qu'est-ce qui est fait d'un point de vue préventif sur la question des violences sexistes et sexuelles pour les enfants ?
Donc le défenseur des droits accompagne le déploiement finalement d'un programme qui s'appelle le JAD, des jeunes ambassadeurs aux droits de l'enfant, qui consiste à intervenir, donc c'est en milieu scolaire, c'est-à-dire c'est des services civiques dits JAD, donc qui vont faire la prévention sur les 12 grands droits de l'enfant, et notamment le droit à être protégé contre toute forme de violence, avec des activités ludiques, didactiques, pour que les enfants puissent avoir accès, à ces droits, enfin, puissent prendre conscience de l'existence de ces droits et puissent les faire respecter par la suite.
Il y a des confidences qui peuvent arriver pendant ces interventions. Les JAD ont cet espace-là de pouvoir écouter la parole de l'enfant.
Alors, à l'issue des sessions, des interventions en prévention sur ces types de violences, effectivement, les JAD vont remettre à chacun des enfants un papier qui va leur permettre d'exprimer leur ressenti sur ce qui a été discuté sur les droits de l'enfant, et chaque enfant a la possibilité aussi de présenter une situation de rupture de droit qu'il ou elle aura connue. Et c'est vrai qu'il arrive assez fréquemment que les JAD relèvent des situations assez préoccupantes qui peuvent être traitées par le siège du défenseur des droits, et potentiellement directement après par le 119 auquel ces situations peuvent être réorientées.
Elle avait 8 ans, des rêves plein les yeux, un cartable trop grand, des dessins lumineux, mais l'ombre d'un homme dans son lit l'attendait, et l'enfant s'efface à chaque fois qu'il venait. Ces poupées témoins d'un secret mal gardé, les murs se souviennent même s'ils n'ont rien dit. Un sourire cassé qu'on croyait timidité, mais son âme criait sous des draps sans bruit. Combien d'enfants saignent au silence, sous des mains qui volent.
Gérard Brion, ancien délégué défenseur des droits.
Est-ce que tu estimes qu'il y a quand même des choses qui sont faites en France en termes de protection de l'enfance, pour protéger ces enfants, pour lutter contre ces violences ?
Oui, oui, il y a des choses qui sont faites dans les départements, auprès d'associations comme les Franca, qui occupent un terrain à l'écoute des enfants. Mais c'est loin d'être suffisant, parce que pour moi, c'est un vrai problème de société. Et donc je pense qu'il faut que toutes les institutions qui s'occupent d'enfants se mobilisent et aient la conscience qu'un enfant, ça doit se respecter, de toute façon.
Et pourquoi il y a des freins pour toi ? Parce qu'en fait, on en parle maintenant, on sait que ça existe. qu'un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles.
Ouais.
Pourquoi est-ce que les institutions s'en emparent pas ?
Je pense que ça leur fait peur parce qu'ils sont concernés. Moi, ce que j'entends souvent à l'éducation nationale, c'est que tout va bien. Sauf qu'ils sont concernés au premier chef. Mais ils ne veulent pas l'entendre. Ce qui s'est passé à Paris avec les restaurants scolaires, les animateurs périscolaires, mais ça, tout le monde le sait depuis longtemps, et personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait parce que bah, ça allait, quoi, c'était, ça se passait pas si mal. C'est une espèce de lâcheté, quoi. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de pire.
Il y a un autre point sur la question du périscolaire à Paris, c'est qu'on n'a pas écouté les enfants,
non.
Mais on n'a pas écouté les mères non plus.
Ah ben bien sûr, on n'a écouté personne, puisqu'on détient la vérité. C'est ça le problème.
Le silence protège les agresseurs.
Parler, c'est déjà agir.
Le respect n'est pas une option.
Contre le VHSS, on dit non ensemble.
Anna, membre du collectif Enfantiste 38.
Au collectif Enfantiste 38, nous faisons surtout un travail de sensibilisation et de mobilisation autour des violences faites aux enfants. Nous organisons actuellement des rassemblements publics, notamment devant les tribunaux, pour dénoncer l'impunité des violences sexuelles et les dysfonctionnements judiciaires. Après le décès de Liana, on s'est mobilisé collectivement pour rendre hommage aux victimes et rappeler la responsabilité collective dans la protection des enfants. Notre collectif s'appuie aussi sur une réflexion autour de l'adultisme, c'est-à-dire le système de domination des adultes sur les enfants. Nous pensons que les violences sexuelles faites aux enfants ne sont pas des faits isolés, mais qu'elles s'inscrivent dans un continuum de violences. Les violences éducatives ordinaires, la silenciation de la parole des enfants, le manque d'écoute, l'absence de respect de leur consentement, les violences institutionnelles ou judiciaires. C'est pourquoi nous essayons de défendre une autre place pour les enfants dans la société. Une place où leur parole est prise au sérieux, où leurs limites sont respectées et où ils sont considérés comme des personnes à part entière. Nous participons aussi à des événements, des temps d'échange et des ciné-débats pour informer sur les violences sexuelles faites aux enfants, l'inceste et les conséquences que ces violences ont sur les enfants. Nous essayons également de rendre les espaces militants plus accessibles aux enfants et adolescents-adolescentes pour qu'ils puissent participer, s'exprimer et être pris au sérieux. Plus largement, nous pensons qu'il est important de créer des espaces où les enfants se sentent en sécurité, écoutés et respectés, et où leur parole peut être accueillie sans jugement.
Il faut être lucide. Oui, des lois existent. Oui, des dispositifs sont en place. Mais sur le terrain, trop d'enfants ne sont pas protégés comme ils devraient l'être. Les moyens manquent, la parole est encore trop souvent fragilisée et l'entourage, comme les institutions, ne réagissent pas toujours à temps. Cette réalité, elle est connue et elle n'est pas acceptable. Aujourd'hui, la protection des enfants n'est pas à la hauteur des enjeux.
Mais face à ça, il y a celles et ceux qui refusent de détourner le regard, qui agissent, accompagnent, alertent, forment, qui font bouger les lignes. Parce qu'au fond, la vraie question n'est plus de savoir si le problème existe. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on décide d'en faire maintenant ? Ce podcast a été réalisé par Cyrielle et Sandrine des Francas de l'Isère, lauréats d'un programme européen Connect for Global Change avec leur projet pour des accueils collectifs de mineurs sans VSS. Ce projet vise à prévenir et combattre ces violences en sensibilisant et outillant les adultes intervenant auprès des enfants.
Merci à celles et ceux qui nous ont soutenus dans ce projet. Un grand merci à la radio News FM de Grenoble pour le montage, le mixage et le soutien technique.